à tout prix la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut.
Bonjour, je suis Omira Nawabi, chargée de recherche à l'INSERM. Je dirige une équipe qui comprend une dizaine de personnes à l'Institut des neurosciences de Grenoble. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'excite, de ce qui m'émerveille et ce qui m'a permis d'avoir le grand prix de la recherche de la Fondation Énergie sous l'égide de l'Institut de France, la réparation du système nerveux central. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois de répondre à cette question. Qu'est-ce qui m'a tant attirée dans la recherche en biologie ? L'histoire est assez inattendue, alors je vais vous la raconter. Tout a commencé lorsque j'étais enfant et que je me rendais au cabinet médical de ma mère. Elle avait son cabinet qui était au rez-de-chaussée de notre habitation et elle était gynécologue obstétricienne. Et les veilles de week-end où moi j'avais le droit de rester réveillée un peu plus tard et où elle fermait son cabinet un peu plus tôt étaient des moments vraiment que j'attendais avec impatience parce que c'était le moment où j'avais le droit d'aller dans son cabinet, où j'avais le droit d'aller dans son monde. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai vu un microscope qui était posé là. Et pourquoi cette histoire est assez inattendue ? C'est parce que ma mère pratiquait la procréation médicalement assistée dans les années 80 à Kaboul. Donc c'est une chose qui peut surprendre. Et c'est comme ça que moi, petite fille de 5-6 ans, j'arrivais dans son cabinet et je voyais ce microscope et parfois il y avait des lames. Donc c'était des vulgaires bouts de verre. Mais quand elle me les mettait sous le microscope, ce que je voyais, c'était merveilleux. C'était pour la première fois où j'ai vu des cellules sous un microscope et des cellules qui bougeaient, c'était des spermatozoïdes. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que le monde regorge de choses qu'on ne voit pas, de choses qui sont encore inexpliquées et qui restent à découvrir. Et c'est là où a commencé ma passion pour la biologie, et plus particulièrement pour le système nerveux. Parce que, comme vous le savez sans doute, le système nerveux, c'est le chef d'orchestre, le maestro de notre corps. C'est ce qui nous permet d'interagir avec le monde extérieur, de comprendre ce qui se passe et d'y répondre. Et donc, je me suis intéressée au système nerveux et on sait que toute atteinte de ce système nerveux, même la maladie la plus bénigne, va induire des problèmes qui sont très lourds. Donc avant de vouloir réparer le système nerveux, j'ai voulu d'abord le comprendre. Comment se fait-il que la topographie de votre système nerveux, du mien, de votre voisin, soit exactement le même? Comment se fait-il que votre nerf optique part de l'œil et va innerver exactement les mêmes noyaux chez tout le monde dans le cerveau? Comment se fait-il que le nerf vague qui innerve le cœur trouve son chemin pour aller jusqu'au cœur? Tous ces nerfs sont guidés dans notre corps. C'est-à-dire que les neurones qui sont situés à un endroit vont envoyer une projection qu'on appelle l'axone et l'ensemble des axones vont former les nerfs et ces nerfs vont aller jusqu'à leur cible. Il s'agit du processus du guidage axonal. Et la moindre petite erreur de guidage a des conséquences terribles. Prenons par exemple l'exemple du syndrome congénital des mouvements en miroir. C'est une maladie génétique rare. Comme vous le savez, nous sommes des organismes symétriques, donc il faut une coordination motrice parfaite entre les côtés droit et gauche, notamment lorsque l'on marche. Et ceci est possible parce que les nerfs qui contrôlent la motricité sont mis en place chez l'homme selon un mode croisé. C'est-à-dire que les neurones qui contrôlent la motricité du côté gauche se trouvent à droite et vice-versa. Donc ça veut dire qu'au cours du développement, ils vont envoyer leurs axones de façon croisée. Et maintenant, si ces axones ne croisent plus la ligne médiane, donc le milieu de notre corps, eh bien, les deux côtés vont être complètement indépendants et ne vont pas pouvoir se synchroniser. Et donc, c'est ainsi que des personnes qui ont ces défauts de guidage vont souffrir des mouvements en miroir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de bouger leurs bras, par exemple, de façon indépendante l'un de l'autre. Donc, ce mécanisme fondamental de la vie des neurones m'a passionnée. Ainsi, j'ai décidé de focaliser mes travaux sur la compréhension du guidage axonal en faisant ma thèse dans l'équipe de Valérie Castellani à Lyon. C'est là que je me suis vraiment mis au guidage axonal et à la mise en place du système nerveux pendant le développement embryonnaire. Et en fait, c'est pendant ce moment-là que différents facteurs de guidage sont exprimés dans l'environnement de ces axones. Certains sont attractifs et d'autres sont répulsifs. Moi, je me suis intéressée à une famille de molécules que l'on nomme les sémaphorines. Le nom vient de sémaphore, séma en grec, signe, et phoros, le port. Le sémaphore, en langage maritime, est un tour dressé sur une côte qui communique avec les navires par des signaux optiques. Et ce n'est pas un hasard si une famille de molécules de guidage est nommée sémaphorine. En effet, les molécules de guidage agissent vraiment comme des panneaux de signalisation pour diriger les axones à bon port. Et j'aime beaucoup comparer le système nerveux à un réseau routier. J'ai montré que cette sémaphorine, facteur répulsif, est exprimée au niveau de la ligne médiane. La traversée de la ligne médiane, si on y pense bien, est un processus extrêmement complexe, parce que tout d'abord, les axones doivent s'en approcher, donc doivent être attirés par les lignes médianes, puis doivent le traverser et ensuite le quitter, s'en éloigner. Donc, ça veut dire qu'ils doivent changer leur réponse. D'attraction, ils doivent passer à répulsion. Donc la question est, comment, dans une période de temps assez courte, ils changent drastiquement leur réponse aux signaux de la ligne médiane? Donc, moi je me suis intéressée à ces neurones et il faut vraiment que je vous parle du cône de croissance. Qu'est-ce que c'est que le cône de croissance? Alors, à la fin des axones, au cours du développement, il y a une structure qui a la forme d'une main et il faut vous imaginer des doigts qui tournicotent, qui bougent vraiment dans tous les sens. Et ce cône de croissance va ainsi vraiment sentir l'environnement dans lequel les neurones sont. C'est vraiment le GPS, pour en revenir à la comparaison avec la route, c'est vraiment le GPS du neurone. C'est ça qui va communiquer avec l'environnement et qui va vraiment intégrer les signaux dans l'environnement. Et donc, moi, ce que j'ai montré, c'est qu'avant d'arriver à la ligne médiane, ces neurones présentent un récepteur qui est incomplet aux sémaphorines. L'élément du récepteur qui permet la transmission du signal dans le neurone est manquant. Mais à la traversée de la ligne médiane, suite aux signaux qui sont exprimés par la ligne médiane, ce récepteur est présent à la membrane. Donc ça, on l'a montré tout simplement en fusionnant ce récepteur-là avec une molécule fluorescente, mais qui est sensible au pH. Ce qui veut dire que la fluorescence n'apparaît que si le récepteur est à la membrane. Donc cette construction-là, on l'a électroporée dans des embryons de poulet et on a regardé. Donc avant la traversée de la ligne médiane, tout est noir, mais lorsque les axones s'approchent de la ligne médiane, ils commencent à devenir verts. Donc ça veut dire que le récepteur est présent à la membrane. Ce qui fait que ces neurones, d'un coup, se mettent à répondre à SMA3B et vont sortir de la ligne médiane pour continuer leur chemin vers leur cible. Donc, ces travaux-là sont extrêmement importants parce qu'ils vont nous permettre de mieux comprendre la topographie, du système nerveux, comment ces axones sont mis en place et peut-être pour trouver des thérapies pour réarranger certains défauts dans certaines maladies. Et je vais reprendre la phrase que disait Alain Chédotal, « Il ne suffit pas d'avoir un cerveau, encore faut-il qu'il soit bien connecté. » Et c'est ça toute l'importance, c'est la connexion. Donc, on arrive à la fin de ma thèse et à ce moment-là, un article extraordinaire a été publié dans la revue Science. L'équipe de Zhegang He à Harvard a montré pour la première fois que les neurones du système nerveux central sont capables de repousser après une lésion. Ce travail a été vraiment révolutionnaire puisque l'on sait tous que le système nerveux central n'est pas capable de régénérer. Ainsi, toute blessure chronique, comme des maladies neurodégénératives, que ce soit Alzheimer ou le glaucome, ou des blessures traumatiques, comme les lésions de la moelle épinière ou des accidents vasculaires cérébrales, par exemple, induisent une perte irréversible des fonctions cognitives et ou moteurs. Et c'est déjà au XIXe siècle que Ramón y Cajal, ce fameux neurobiologiste espagnol, avait observé que les neurones du système nerveux central ne repoussent pas, contrairement à ceux du système nerveux périphérique. Donc là, juste pour vous rappeler, le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, c'est l'ensemble des nerfs qui sortent du cerveau et de la moelle et qui vont innerver les muscles, les os, la peau, etc. Et ce n'est qu'en 1981, l'année de ma naissance, que Samuel David et Albert Aguayo de l'université de McGill au Canada ont montré que tout espoir n'était pas perdu, que le système nerveux central pouvait éventuellement être réparé. Ils sont partis de cette observation que les axones du système nerveux périphérique repoussent. C'est comme ça que, par exemple, aujourd'hui, on est capable de faire des transplantations de bras ou de jambes et les patients recouvrent la mobilité et la sensation de leurs bras puisque les axones repoussent. Et le système nerveux central ne repousse pas, comme je vous l'ai dit. Donc, ils ont émis l'hypothèse que c'était l'environnement de ces neurones qui était différent. Dans un cas, l'environnement est permissif à la repousse neuronale, et dans l'autre cas, il était délétère. Donc, pour démontrer cela, ils ont greffé un morceau de nerf sciatique, donc le nerf qui est dans la cuisse, et du coup du système nerveux périphérique, dans la moelle épinière, qui appartient au système nerveux central. Qu'ont-ils découvert ? Eh bien, les axons du système nerveux central envahissaient le greffon du système nerveux périphérique. Donc, ils avaient une certaine capacité de repousse. Cette étude a ouvert la voie pour comprendre ce qui se passait dans le système nerveux central à la suite d'une lésion et a renforcé cette idée d'environnement non permissif à la repousse des axones dans le système nerveux central. Suite à cela, il a été montré qu'à la suite d'une lésion, une cicatrice gliale se met en place. Il est composé de divers types cellulaires, comme des fibroblastes, des astrocytes ou encore des progéniteurs d'oligodendrocytes. Cette cicatrice forme une barrière physique, comme un mur qui se dresse devant les axones lésés. C'est aussi une barrière chimique, puisque les cellules de la cicatrice sécrètent des molécules inhibitrices à la repousse, comme des éléments de la matrice extracellulaire, les CSPG, ou des facteurs de guidage répulsif. En parallèle à cela, des débris de myéline qui proviennent des axones en cours de dégénération inhibent encore davantage cette repousse. Ces travaux ont été extrêmement prometteurs puisque l'équipe de Martin Schwab en Suisse est allée jusqu'à tester chez l'homme des anticorps qui bloquent NOGO, qui est issu de ces débris de myéline. Donc les résultats sont extrêmement encourageants mais ne permettent pas encore la guérison totale des patients. Dans le début des années 2000, des chercheurs ont généré des souris qui ne possédaient plus ces molécules inhibitrices. Bien évidemment, il était attendu d'avoir une belle repousse axonale, la formation des circuits et le retour des fonctions. A-t-on obtenu cela ? Malheureusement non. Les neurones ne repoussent pas mieux dans ce contexte que dans une souris sauvage. Ainsi, une autre hypothèse est devenue populaire. Et si finalement le neurone lui-même perdait la capacité de repousse au cours du développement. En effet, un jeune neurone embryonnaire ou juste après la naissance est capable de repousser son axone après lésion comme si de rien n'était. En partant de là, l'équipe de Zhigangye a testé plusieurs voies de signalisation moléculaire très actives durant la vie embryonnaire. Pour cela, il a utilisé le modèle du nerf optique. Le nerf optique, le nerf crânien numéro 2, est le seul lien entre l'œil et le cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que le nerf optique appartient au système nerveux central et on récapitule tous les aspects, notamment l'absence de régénération après une lésion. Après l'activation de la voie mTOR, qui contrôle le métabolisme cellulaire, la croissance et la survie, non seulement les neurones ne mouraient plus, mais ils étaient capables de repousser. Et donc c'est ce travail-là qui a été publié dans Science et qui a attiré mon intérêt pendant ma thèse. Et donc, à la suite de cet article, je n'avais qu'une idée en tête, c'est de rejoindre cette équipe et de faire du guidage axonal. En effet, jusqu'à là, le concept de guidage axonal n'était limité qu'au développement, puisque c'est à ce moment-là que le système nerveux se mettait en place. Mais là, il y avait une opportunité tellement excitante de travailler sur la formation de circuits nerveux dans un organisme adulte et de vraiment réparer le système nerveux. Et c'est donc avec cette idée et cette motivation en tête que je suis partie à Harvard, à Boston. Lorsque j'ai commencé les expériences, je me suis rapidement aperçue que cette régénération était vraiment de courte distance. À peine quelques centaines de micromètres derrière l'œil. De plus, ces axones, puisqu'ils ne trouvaient pas de cible, finissent par mourir, et assez rapidement. Donc, finalement, la régénération n'était pas encore suffisante pour explorer les mécanismes de guidage qui me tenaient tant à cœur. Ainsi, je me suis attelée à améliorer le système et à trouver un moyen d'avoir une repousse robuste et à longue distance. Et à ce moment-là, j'étais incroyablement chanceuse, puisqu'un autre postdoc français, Stéphane Belin, a également rejoint le labo et il était spécialiste en biochimie et en synthèse protéique. Donc, nous avons décidé de mettre nos expertises personnelles en commun dans le but de progresser ensemble. Ce qui nous a vraiment intrigués, c'était que le système nerveux adulte, mature, montre une grande plasticité. En effet, suite à une lésion, si certains axones restent intacts, eh bien ils vont envoyer des collatéraux vers les régions dénervées. Donc ces observations montrent que tant que les neurones adultes intacts, et j'insiste bien sur le mot intact, sont intacts, ils sont capables d'émettre des prolongements en cas de problème. Pourtant, les axones lésés, eux, ne repoussent pas. Donc, Stéphane Belin et moi avons émis l'hypothèse que la lésion activait des voies pour supprimer ou diminuer les capacités de repousse. Donc, comment mettre en évidence la signature de la blessure spécifiquement dans les neurones lésés ? Donc, on a utilisé le nerf optique, encore une fois. Comme je vous le disais, parmi toutes les cellules de la rétine, seules les cellules ganglionnaires de la rétine envoient leurs neurones pour former le nerf optique. Ainsi, une lésion du nerf optique n'affecte que ces neurones-là et pas le reste de la rétine. Encore fallait-il isoler ces neurones du reste de la rétine. Pour cela, nous avons eu recours à une lignée de souris transgénique qui exprime la protéine fluorescente yellow de façon spécifique dans ces neurones-là. Nous avons donc lésé le nerf optique de ces souris et après 3 jours, nous avons isolé ces neurones par cytométrie de flux. Ensuite, nous avons extrait les protéines et analysé le contenu en protéines des neurones intacts versus des neurones lésés par spectrométrie de masse. Pourquoi faire une étude protéomique alors qu'une analyse par transcriptomique est tellement plus facile et tellement à la mode? Eh bien, les protéines sont les véritables et les derniers effecteurs de la cellule et qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que la corrélation entre la quantité d'ARN et de protéines n'est pas parfaite. Donc nous avons voulu vraiment voir ce qui se passait au niveau de ces derniers effecteurs, les protéines. Suite à cette étude protéomique, on a découvert plusieurs choses. Tout d'abord, la lésion induit bien d'énormes changements dans le neurone. Nous avons ensuite soumis nos résultats de protéomique à une analyse bioinformatique. Ce que nous avons découvert, c'est que la lésion n'affecte pas seulement une voie de signalisation, mais plusieurs voies de concert. Ainsi, nous avons décidé de moduler en même temps plusieurs de ces voies, à savoir mTOR, JAK-STAT et c-MYC. Pour cela, nous avons combiné une approche virale à des souris transgéniques. En effet, nous avons généré des adeno-associated viruses qui exprimaient c-MYC. Nous les avons injectés dans des lignées de souris où les voies mTOR et JAK-STAT étaient spécifiquement activées dans nos neurones d'intérêt. Afin de vraiment voir l'étendue de la repousse, nous avons décidé d'utiliser des techniques d'histologie et d'imagerie de pointe. En effet, nous avons rendu nos tissus transparents et les cerveaux, les nerfs optiques et les cerveaux, puis nous les avons imagés. Qu'est-ce qu'on a vu ? On était vraiment estomaqués, c'était incroyable. Les nerfs repoussaient maintenant du site de la lésion, juste derrière l'œil, jusque dans le cerveau. Cette croissance était vraiment incroyable et ouvrait vraiment la porte aux questions qui nous obsédaient dès le début, c'est-à-dire la reconstruction des circuits et le retour des fonctions. Lorsque nous avons regardé de plus près ce circuit en cours de régénération, nous avons observé de graves défauts de projection. En effet, même si les cibles de ces neurones étaient innervées, d'autres axones montrent un profil de projection complètement aberrant, comme par exemple des axones qui naviguent dans l'autre nerf optique qui vont jusqu'à l'autre œil. Est-ce grave ? Eh bien oui. On perd une quantité importante d'axones qui doivent aller jusqu'à leur destination. Cela pose un problème car on ne sait pas combien d'axones faut-il pour effectuer correctement une fonction. Est-ce qu'il en faut 1, 10, 100, tous ? Je ne sais pas. Mais la nature est faite de telle façon que rien n'est dû au hasard. Et je pars du postulat qu'il faut conduire un maximum d'axones à bon port pour avoir un retour de fonction. En plus de cela, si ces axones projettent dans les mauvais territoires, cela risque de créer des circuits délétères. En effet, avant de m'intéresser à la régénération, je pensais avec beaucoup de naïveté et beaucoup de simplicité que les personnes victimes de lésions de la moelle épinière, par exemple, ne ressentaient rien en dessous de la lésion. J'étais vraiment très loin de la réalité. En effet, ces patients souffrent très souvent de douleurs en dessous de la lésion. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que les axones lésés se connectent n'importe comment aux cellules qui sont les plus proches. Seulement le cerveau, qui intègre les informations reçues par ses neurones, ne les comprend plus, puisque lui, il est focalisé à comprendre un seul type d'information. Et donc, il traduit ces informations-là par un message douloureux. Si cela est vrai, alors il devient encore plus urgent et crucial de conduire les axones qui régénèrent vers leur cible originale. Et cette question dépasse le cadre de la régénération. En effet, on entend de plus en plus souvent parler de thérapie cellulaire. Nous sommes maintenant capables de différencier les cellules souches ou même des fibroblastes en n'importe quel type de cellule. Donc l'idée est maintenant de greffer des neurones sains dans des cas de maladies neurodégénératives comme le glaucome ou Parkinson. Seulement, ces nouveaux neurones vont-ils connecter à leur cible ou avoir des connexions aléatoires? C'est une question clé si on veut vraiment reconstruire des circuits et des bons circuits. L'autre question est bien évidemment de savoir si ces neurones en cours de régénération sont toujours sensibles à leur environnement, s'ils sont toujours capables d'intégrer les informations de position. Eh bien, suite à notre étude protéomique, j'ai montré qu'une protéine qui régule le cytosquelette, DCLK2 pour double cortine lichenase 2, est diminuée après la lésion. En l'exprimant de nouveau à l'aide de virus, j'ai montré qu'il permettait une accélération de la repousse axonale après la lésion. En effet, l'un des points limitants dans la régénération du système nerveux central est la formation de ce fameux cône de croissance. Ainsi, DCLK2 stabilise et l'actine et les microtubules afin de faciliter la formation de ce cône de croissance et ainsi accélérer la repousse axonale. Donc ces axones qui repoussent, suite à une lésion, ont bien un cône de croissance. Donc cela suggère fortement qu'ils sont parés à intégrer les informations de guidage présentes dans leur milieu. Donc, je suis partie en postdoc, à Harvard, avec ces questions en tête. Et finalement, au vu de la complexité des phénomènes que nous étudions, je vais enfin pouvoir y répondre, mais au sein de ma propre équipe de recherche. En effet, grâce à ce modèle unique et très original de régénération que j'ai développé, je peux maintenant essayer de guider correctement les axones qui repoussent et tenter de reformer un circuit fonctionnel après une lésion. Mon but ultime maintenant est de dompter ces axones qui vont n'importe où et de montrer que la réparation du circuit nerveux, est là, à notre portée. Mon équipe et moi-même sont extrêmement contents et excités à l'aider de relever ces défis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À bientôt !